Les pieds sur terre, Sonia Kronlund.
Personne ne sait ce qui se passe aujourd'hui parce que personne ne veut qu'il se passe quelque chose.
Place de la République, c'est une série d'émissions tous les mercredis en immersion dans une mairie de quartier à Marseille, dans un hôpital universitaire à Amiens et dans un commissariat à Auxerre. C'est la vie des habitants au jour le jour et la façon dont ils utilisent les services publics financés par leurs impôts, dont ils en bénéficient, je devrais dire, de cet argent redistribué. Dans Place de la République, aujourd'hui, au service des urgences, on fait par exemple connaissance avec un aide-soignant qui travaille dans un EHPAD et accompagne ce jour-là sa belle-mère, une dame âgée. Il y fait quelques comparaisons pertinentes sur l'état des 10 services publics. À la mairie des 6e et 8e arrondissements de Marseille, pendant ce temps-là, Patrick Andréani est appariteur. Il s'occupe de l'accueil et de la logistique et le jour du conseil d'arrondissement, il fait circuler le micro parmi les élus. C'est un poste précieux, stratégique, qui nous permet d'entrer là par le petit trou de la serrure. Ce jour-là, justement, il est une nouvelle fois question de la répartition des logements sociaux dans la ville. Enfant des quartiers nord, Patrick, lui, vit et travaille aujourd'hui dans les quartiers sud. Mais tout de suite, je le sais, vous les attendez. Voici de nouveau les policiers du commissariat d'Auxerre. Nous sommes avec le commandant Thierry Poilvert dans la voiture de l'huissier qui nous emmène pour une matinée d'expulsion locative. Cela se passe une semaine avant le début de la trêve hivernale. Le serrurier est chargé de forcer les portes puis de changer les serrures une fois que l'appartement est expulsé. Lui suit dans sa propre voiture. Au programme, visite de 3 appartements, tous situés dans les logements sociaux des quartiers ZUP d'Auxerre, Sainte-Geneviève, les Rosoirs et les Brichères. Place de la République, c'est la 2e saison, l'épisode 7. Rémi Dibowski-Douatte, Pauline Mocor et Jeanne Robet.
En réalité, on ne sait jamais ce qui se passe, on sait simplement ce qu'on veut qu'il se passe. C'est comme ça que les choses arrivent.
Police secours, bonsoir.
En parlant d'expulsion, je risque d'en faire une un peu compliquée la semaine prochaine avec Kina. Apparemment, ils ont été il y a quelques années expulsés de Toussy, ça s'est mal passé avec les gendarmes. Ah, on ira avec du renfort.
Voilà, ceux de ce matin, je les connais pas. On les connaît pas parce que quand on arrive à des extrémités comme ça, c'est qu'on n'a pas pu rencontrer les gens. Donc c'est des gens qui vivent seuls, qui n'ont pas souhaité prendre contact avec nous. Parce qu'on a l'obligation, dans le cadre de l'octroi de la force publique, de les prévenir au moins 3 jours. Mais là, la plupart des 3 qu'on va voir, ils ont reçu déjà un courrier de ma part il y a 15 jours, en disant je viens tel jour à telle heure. Donc s'ils avaient voulu prendre contact, ils seraient venus me voir. Et on y est repassé la semaine dernière, vendredi, pour essayer de les voir et ça n'a pas répondu.
On fait aussi cette famille-là
Non, on ne la fait pas celle-là. Non.
Ah d'accord.
Bon. Non. Ils ont repris, vous savez, c'est le fameux qu'on devait faire où il y avait des enfants. Hein.
J'en avais parlé.
C'est une famille avec 4 enfants. Et elle revient régulièrement au goût du jour pour les expulsions parce qu'ils ne payent pas. Et dès qu'on annonce l'expulsion, ils se remettent à payer. Et puis, ils les maintiennent dans les lieux, quoi.
À savoir qu'après une mesure d'expulsion, il n'y a pas de prescription, elle reste applicable toujours. Donc les gens reprennent les paiements, puis au moindre incident, ils peuvent être expulsés quasiment du jour au lendemain. 2-3 ans après parfois. Oui, je me trouve chez Madame Aubi, dans l'expulsion locative avec lui-ci.
Apparemment. Il y aura un petit copain ou je ne sais qui serait occupant là-dedans, mais on ne le connaît pas lui officiellement.
Nous sommes dans le quartier des Rosoirs ici. Un quartier qui a été sensible et qui ne l'est plus. Qui rassemble beaucoup de personnes âgées, de retraités. Il faut penser à se protéger, on ne sait pas à qui on a affaire. Vous voyez, lui ici essaie de se faire ouvrir la porte, donc il sonne à tous les appartements. On peut être amené à recevoir un projectile. Hein. Donc, on vient de se protéger en se mettant à l'aplomb du bâtiment. comme vous le disiez, l'huissier, on peut avoir un souci. Dans le sens où la locataire en titre est partie, mais il y aurait son frère ou des squatteurs dans son logement. Donc on va devoir donc, les faire sortir. Et les
huissiers sont là.
Est-ce qu'il est là ou pas? Parce que samedi, franchement, j'ai rappelé moi le samedi les flics. Quand je pensais un vrai calvaire de vivre avec quelqu'un comme ça, un drogué. Et donc, non.
C'est bien reçu. Donc, faites en sorte, dès que possible, il va falloir me renforcer. Hein. Pour l'instant, on ouvre la porte, mais il y aurait des squatteurs, donc ça serait. Ça serait pour dire, problématique. Pour l'instant, pas du tout.
Parce que c'est chez
vous. Non, vous n'êtes pas locataire, monsieur. Vous avez jamais signé un bail, vous avez jamais payé.
Non, rien du tout.
Et ça fait des années qu'il n'y a pas de loyer de payer. On en est simplement au mois. Il y a un an, on était déjà à 14 000 euros de loyer pas payé.
14 000
Il y a un an.
C'est quoi qui pose question là qui vous
Le problème, c'est qu'il n'est pas locataire. Il était avec une dame qui était locataire, et la dame est partie. Mais elle a laissé le monsieur dedans, qui n'a aucun droit de se maintenir dans les lieux.
Mais il y a un poisson rouge.
Oui, il a son poisson rouge. Quoi. Ça n'empêche pas. Hein. Vous pouvez pas être locataire, ça ne vous empêche pas d'avoir un poisson rouge.
Mais il était inquiet.
Oui, pour ça, oui, apparemment.
Du coup, là, je vais essayer d'aller chez des amis en attendant. Je sais pas, je vais voir. Je suis pas sûr.
On continue. On va savoir que vous pouvez être expulsé pour non-paiement de loyer, mais vous pouvez être aussi expulsé pour des troubles de voisinage importants. Là, en l'occurrence, on a fait le coup double, puisqu'on a expulsé quelqu'un qui ne payait plus son loyer, mais qui visiblement perturbait considérablement la vie de cet immeuble. Donc finalement, voilà, on a résolu un problème. Je regarde l'état de mes semelles pour éviter de salir la belle automobile de monsieur l'huissier.
Ça c'est plutôt bien ou mal?
Non, c'est bien passé.
Hein,
de manière.
Oui, il n'y a pas eu de. À partir du moment où il n'y a pas de violence, vous savez, ça se passe bien.
C'est quelqu'un. C'est quelqu'un d'intelligent, il savait très bien qu'il n'était pas dans son droit, il savait très bien qu'il n'était pas chez lui, il savait très bien qu'il n'avait jamais payé un loyer, donc il n'allait pas se maintenir dans les lieux. Et je suis persuadé qu'il a la clé de la boîte aux lettres et qu'il avait récupéré mon courrier. Faut pas se leurrer. Hein. Mais l'essentiel, c'est que ça se soit bien passé. Après, moi, ce qui me sert le cœur, c'est quand je rencontre les gens et qu'on ne trouve pas de solution. Là, ils ont pas, on ne peut pas dire que manifestement, elle avait envie de trouver une solution. Hein. En fin de compte, je ne fais qu'exécuter des décisions de justice. C'est pas moi qui ai décidé de les expulser. Hein. C'est lui, c'est le juge qui a décidé que, compte tenu de la situation, on devait résilier le bail et ordonner l'expulsion. Moi, je ne suis que l'exécutant de la justice. Hein. Rien d'autre. Puis je ne fais pas que des expulsions, attention. Hein. C'est peut-être 5% de mon activité. Hein. Les expulsions de ce type-là de ce matin, quand j'en fais une petite dizaine dans l'année, c'est tout. Hein. Sur le nombre de dossiers que j'ai, je vais être bien 180 dossiers. Le reste, on récupère à l'amiable. Les gens, soit ils payent, soit ils s'en vont volontairement, ils me rendent les clés. Il y a des solutions de relogement, je leur accorde des délais. Là, c'est vraiment les situations de blocage. Moi, j'ai jamais mis quelqu'un à la porte sans qu'il y ait une solution de relogement. Dernier numéro de téléphone, il y a le 115, qui est le SAMU social, il y a la Croix-Rouge pour les femmes seules avec des enfants. Dans Lyon, on ne peut pas dire qu'on met les gens à la rue. Mais encore faut-il pouvoir les rencontrer.
Mais là, du coup, ce jeune homme, vous ne savez pas où il va aller.
Ah non. Mais en fait pas, il a des copains, ce soir, il sera relogé. Il fait déjà 20 degrés, tout va bien. C'est un petit peu inquiétant quand même par rapport au climat. Et voilà.
Quelle adresse ici?
Bonjour et bienvenue au centre hospitalier universitaire Amiens-Picardie.
Le CHU Amiens-Picardie, bonjour.
Les patients, pourquoi ils sont dans le couloir, pas en zone d'attente? Bonjour monsieur.
Bonjour.
Je suis le docteur Louis. Alors donc, vous avez reçu un coup pile poil là?
Là, ici, c'est en...
Bah, j'attendais une nouvelle de ma grand-mère, qui est là depuis 10h du matin. Et puis bah, là, il est 15h30. Puis... Pas de nouvelles.
Ici,
on attend.
Où, montrez-moi.
Qu'est-ce qui est dû t'arriver? Juste une chute ce matin à la maison. Et voilà, elle est arrivée par les pompiers ici. Puis bah, on attend depuis 10 heures. On ne sait pas ce qu'il y a. Ça fait 3 ans qu'elle est à la maison. Et voilà, c'est la première fois que ça arrive.
Elle habite chez vous?
Oui, ça fait 3 ans qu'on l'a repris chez nous. Parce qu'elle m'a dit Alzheimer. Et voilà, je préférais la prendre à la maison que... Au mieux qu'elle aille en EHPAD. Voilà. C'est intergénérationnel à la maison. On a des personnes de 90 ans. De 9 ans à 90 ans. Enfin,
ça vous plaît?
Ah oui, énormément. Énormément. Après, nous, on se prive. Hein, on ne part pas en vacances. Voilà, les fêtes de Noël, c'est à la maison. Bon, avec la famille, mais voilà, c'est à la maison. Parce qu'on ne peut pas la déplacer comme on veut. Ben, voilà. C'est comme ça. On va pas à un parc d'attractions demain parce qu'on ne peut pas la laisser tout seul. Enfin, ou alors on a une grande fille aussi. Bah, la grande fille, des fois, c'est elle qui se prive aussi pour que nous, on puisse emmener les petits, des fois, se promener une journée. Et puis que la grande, elle reste à la maison pour la surveiller. C'est vrai que cette maladie d'Alzheimer, bah, malheureusement, elle ne peut plus rester seule. Je pense qu'elle est mieux au niveau structure familiale qu'en EHPAD. Ça fait 23 ans que je travaille en EHPAD, donc j'ai pas trop envie qu'elle aille là-bas. Ouais, non, niet, il est hors de question. Hors de question. C'est le manque de personnel, surtout, voilà, on peut pas faire notre travail correctement. Malheureusement, c'est ça, c'est aussi bien pour leur donner à manger, pour leur faire une toilette, ou, enfin voilà, c'est toujours le compteur heure qui calcule sur notre monde, enfin, plutôt qu'autre chose, donc oui, j'ai pas envie qu'elle vive ça. Je fais le maximum pour mes résidents, enfin, je fais le maximum pour eux. Mais malheureusement, tout là-haut, il y a la direction, ils ne voient pas notre travail qu'on a à faire, ils ne voient pas les... Aujourd'hui, on travaille en EHPAD, on a 70 résidents, on n'est que 7 soignants, et on doit faire le ménage, on doit faire la restauration, on doit tout faire. On est multiservice, multitâche. Vous êtes deux sur un étage, vous avez 26 personnes à laver dans votre matinée, à deux. Une aide-soignante et un ASH. C'est un agent hospitalier, donc c'est tout, il n'est pas diplômé pour faire des toilettes, voilà, et on n'est que deux pour faire 26 personnes à deux. Quand un résident vous interpelle, monsieur, puis vous lui dites, oui, j'arrive dans 5 minutes, vous savez très bien que vous ne reviendrez pas dans 5 minutes. Ben, on fait que courir. Malheureusement, on n'arrête pas. Pour eux et voilà, mais on n'a jamais de félicitations de la direction, jamais un remerciement, jamais rien. Bon, on n'attend pas des patients d'avoir un remerciement parce qu'on fait notre travail. Eux, ils payent aussi pour avoir ce qu'ils font. C'est que le prix qu'ils payent. Vous voyez qu'un résident, il paye 2000 euros par mois pour ça. C'est quand même fou quand même. Et à un moment donné, il faut que le gouvernement il mette son nez là-dedans et ça va plus.
Combien vous gagnez?
Une misère, monsieur. 1500 euros net en travaillant 2 week-ends par mois. C'est la vie d'un soignant. Et malheureusement, en plus, avec le gouvernement qu'on a aujourd'hui, je crois que c'est pas de là de bouger. Hein. On va plutôt régresser qu'avancer. Il y a aujourd'hui, on avait quand même des très riches, on avait la classe moyenne et on avait la classe pauvre. Maintenant, il n'y a plus que les pauvres et la classe riche. Il n'y a plus de classe moyenne, c'est fini.
Et vous, vous vous sentez pauvre alors?
Bah oui, très très pauvre, monsieur. Très très pauvre. Moi, j'ai 4 enfants à la maison. J'ai ma femme qui ne travaille pas parce qu'elle est malade.
Et pour votre belle-mère qui est chez vous, vous avez droit à de l'aide?
Non. Non, non, non. Non. Non, parce que quand elle était chez elle à domicile, les gens faisaient passer des auxiliaires de vie 3 fois par jour. Et ça nous coûtait énormément cher déjà. Parce qu'il fallait qu'elle participe à plus de 35% et elle n'avait plus les moyens de le faire. C'est une dame qui a travaillé dans l'agriculture depuis des années. Et malheureusement, elle a donné de sa personne et aujourd'hui j'ai envie qu'elle vive bien ces dernières années. qui me fout en l'air, c'est entendre parler des fonctionnaires. Enfin, les fonctionnaires, ils ont plein d'avantages, tout ça. Non, ils n'ont pas plein d'avantages. Non, non, on n'a rien du tout. Quand vous avez l'hôpital qui vous offre 20 euros pour un enfant pour Noël, 20 euros, non, mais on a l'impression de demander la charité. Mais 20 euros, si ça, c'est un avantage. Bon, pour moi, c'est pas un avantage. Aujourd'hui, moi personnellement, j'ai vraiment l'envie d'arrêter. Voilà. Mais malheureusement, il faut que je suivienne à ma famille avant. Donc, il faut que je pense à ma famille et je penserai à mon travail après. Même aller nettoyer la ville ou n'importe quoi, ramasser les papiers, ça me déplairait pas. Hein. Malheureusement, je commencerai à telle heure, je finirai à telle heure. Au pire, si j'ai pas ramassé un papier dans ma journée, on va pas venir me le critiquer. Que si j'oublie un résident dans sa chambre, bah, malheureusement, c'est catastrophique. Je sais pas, aller ramasser les papiers dans les rues ou n'importe quoi. Là, aujourd'hui, on a tellement une grosse responsabilité, mais et tellement énorme que, arrive à un moment donné, on risque nos diplômes sans arrêt, à chaque minute, à chaque instant, et peut-être des peines de prison aussi. C'est ça, aujourd'hui, il faut faire très très attention, donc... Aujourd'hui, nos responsables, bah, ils s'en lavent un peu les mains et nous, on est trempés dedans.
Vous avez peur en allant bosser ?
Bien sûr, bien sûr. Qu'est-ce qui peut nous arriver ? On sait pas. On sait pas.
Mairie 6-8, bonjour.
Voilà. Oh, monsieur le maire est ici.
Le maire est là, regardez, vous avez le nom.
Voilà, là vous avez la directrice générale et tous les élus en face, ainsi que les élus d'opposition.
Pour gagner un peu de temps, vous voyez, ça, les fauteuils, voilà, on s'accommode. Hein. Monsieur le maire me pardonnera, je mets la salle un peu comme je peux, parce que autrement ça fait énormément de manutention. Vous voyez, je décore à ma façon. Hein.
Moi, je suis Patrick Andréani. Dans la mairie, je suis à l'accueil. Et puis, au sein même de la mairie, on est là pour toutes les tâches. On aide tout le monde un peu à tout faire. Logistique. Un énorme travail de logistique pour tout ce qui est repas, apéritifs, services. C'est notre quotidien. Tu as trouvé, G ?
Oui, on fait qu'un.
D'accord, oui. Pas de problème. Ce soir est le conseil d'arrondissement et avec plusieurs rapports, alors c'est aléatoire. Il peut y avoir par exemple 40 rapports très petits et vous pouvez avoir un rapport très costaud de 50 minutes qui va être commenté par monsieur le maire. Les élus d'opposition veulent la parole, monsieur le maire la reprend, après il passe la parole à ses élus. Oh, ça peut durer près d'une heure, un seul rapport près d'une heure. Jean-Claude Godin peut assister au conseil d'arrondissement. Jean-Claude Godin peut venir parce que c'est sa mairie, ne l'oublions pas. C'est une mairie positionnée à droite, je crois depuis longtemps. Je crois qu'elle est passée une fois, pour être plus précis dans l'historique, elle a été une fois à gauche. Ah, malgré la réputation qu'on fait au 8e arrondissement, cette mairie a été une fois à gauche. Voilà. Et alors, comme je vous disais, positionnée en face de monsieur le maire, tous ses élus, c'est-à-dire madame Vlasto, monsieur Malray, oui.
Madame Vassal,
Jean-Claude Godin. On va dire les gros cadres devant. Et puis après, bonsoir monsieur.
Bonsoir,
ça va. Et vous avez au fond, à gauche, les élus d'opposition, de tout ce qui est gauche, c'est le cas de le dire. Et vous avez au fond, à droite, les élus du Front National. Tout ce qui est pour moi gauche, on appelle ça nouveau cap. Ils sont 2, 4, 6 personnes.
En fait, c'est l'ancien PS.
Voilà. Moi, je vous dirais plutôt parti social. Mais ils sont assez sensibles. Ils tiennent pas beaucoup à ce qu'on les appelle comme ça. Voilà.
Et je donne la parole au Benjamin aujourd'hui. Sylvain Di Giovanni, pour l'appel des conseillers d'arrondissement, s'il vous plaît.
Pour pas cavaler, pardonnez-moi l'expression, toute la soirée avec le micro, on est deux avec un micro, pour passer à chaque intervenant le micro.
Cataneo, Michel. Cole, Karine.
Vous avez quand même des personnages, vous avez par exemple M. Malray, qui est le doyen des élus.
qui est plus âgé, qui est un ami de M. Godin et qui est plus âgé que lui, qui vient assez régulièrement, hein, qui me dit « Comment ça va, jeune homme ?» C'est un monsieur de 80 ans qui vient avec un pantalon rouge, quoi. Alors que, voilà, je plaisante avec lui, ben, c'est beau à voir, c'est beau à voir. Vous avez Madame Blasto, qui est une forte personnalité de la mairie centrale, qui est une dame qui a plus de 70 ans, ou voire bien 75, elle l'est, hein, et qui est une, pour moi, une jeune fille, quoi. Vous, voilà, c'est ce genre de personnage. Puis plein d'autres, quoi. Des gens très sympathiques. Même dans les gens de l'opposition, des gens très sympathiques, quoi.
Oui, donc vous retombez dans la caricature, le sang sur les mains, etc. Donc c'est indigne. Voilà, vous êtes indigne. Voilà, vous faites de la politique politicienne sur le dos des victimes. C'est indigne. Voilà, c'est indigne. Vous recommencez avec vous. On ne peut pas avoir de débat puisque vous êtes dans la caricature. Vous avez d'ailleurs soutenu des ministres écologistes qui ont à ce point complexifié les procédures qu'aujourd'hui, pour racheter et préempter un immeuble, c'est impossible. Donc s'il y a des responsables, vous en faites partie aussi.
Moi, j'aime beaucoup faire le conseil d'arrondissement parce que c'est très riche d'enseignements. Et puis c'est le débat, puis c'est la République, quoi. C'est la démocratie, quoi. Tout le monde, je veux la parole. C'est pour ça qu'il faut être deux, parce que s'il faudrait cavaler toute la soirée avec le micro, c'est bien, quoi. Et puis les élus d'opposition, ils sont là pour ça. C'est comme quand j'étais petit, que je regardais à la télé, là, voilà, que ça criait, ça hurlait sur les plateaux. Ben, c'est un peu ça, quoi. C'est un peu ça, quoi. Voilà, ils sont pas d'accord, ils le disent, et puis voilà, c'est normal. C'est normal, moi je trouve que c'est bien. Ils se font entendre. Vous avez un personnage, cette dame-là, que j'aime beaucoup. Parce que je trouve que chaque fois qu'elle parle, elle dit des choses très intéressantes, et puis qu'elle n'est pas d'accord, et puis elle parle pour les gens. Et moi, je respecte beaucoup ces gens-là, parce qu'il y en a que ça sonne peut-être plus sincère que d'autres, si vous voyez ce que je veux dire. Elle, on a vraiment le sentiment que c'est le cœur qui parle. Voilà. Et je respecte beaucoup ça. C'est les gens, le côté peuple qui ressort, et vous sentez que chez cette dame, c'est sincère.
De la carence en logement social dans cette ville et surtout l'inadéquation entre cette répartition du logement social au niveau des différents secteurs, voire arrondissements de Marseille. Et finalement, peut-être c'est l'enseignante que je suis, j'aimerais bien interroger les élus que nous sommes et leur demander quel est le pourcentage de logement social dans le 6e arrondissement de Marseille, et peut-être même dans le 1er arrondissement où il y a eu ce drame qui s'est passé. Alors, pourquoi je reviens sur ça?
Madame Livi Mozikonoci, moi je la connais peu, mais chaque fois, par contre, que cette dame prend la parole, on sent alors par contre un niveau d'instruction. Waouh! Voilà, si je peux vous dire, waouh! C'est le genre de dame, de personne. Oh, j'ai envie de vous dire qu'elle tiendrait tête à n'importe qui, quoi. Elle serait capable de tenir tête à M. Morin, qui est notre maire de secteur. C'est autre chose, ça. C'est autre chose. Vous avez des élus, quoi. J'aurais envie de vous dire que c'est un peu limité, quoi. Limité, pardonnez-moi. Et voilà, c'est le genre de débat. Ouais, quand il y a un débat entre Mme Lili Mouzikonacci et M. Morin, c'est très intéressant.
Je vais vous donner ce chiffre et je vous invite à y réfléchir, puisque aujourd'hui, à quelques notas après, on ne doit pas être très loin de 3 voire 4% dans le 6e arrondissement de Marseille, et dans le 1er arrondissement, où il y a quand même un besoin important de logement social, on est à 7, et quelques pourcentages, et si les chiffres datent d'un an, mais je suis tout à fait à l'écoute si vous me dites aujourd'hui que nous ne sommes plus du tout dans ces pourcentages. Bien évidemment, pour mémoire, dans les quartiers nord, dans le 16e, on est à 44%.
Évidemment, il y a une surreprésentation des arrondissements du quartier nord qui ne pourra jamais être rattrapée, absolument jamais, tellement la disproportion est importante. Mais ce que nous avons fait, nous, c'est que nous avons commencé à faire des logements sociaux dans d'autres arrondissements, ce qui n'existait pas auparavant. Nous le faisons par petites touches, nous le faisons au fur et à mesure. Et si vous voulez que je vous dise que ma responsabilité, c'est de faire en sorte que le déséquilibre qui a été créé par d'autres dans les quartiers nord ne se retrouve pas dans les quartiers sud, eh bien oui, je vous le dis.
Souvent, on a dit que le 8e était une mairie, un secteur, un arrondissement riche. Ah, c'est pas le 15e arrondissement de Marseille aussi. Hein. Moi, je suis un enfant du 15e arrondissement. Je suis conscient que c'est pas la même chose. Hein. Le 15e, ce sont les quartiers nord. Mais c'est pas les quartiers nord, vous savez. Moi, j'ai 56 ans. C'est pas les quartiers nord que j'ai connus, moi, quand j'étais petit. Moi, j'ai grandi au Parc Aliste. Une cité qui s'appelle le Parc Aliste. J'ai toujours grandi là-haut. Je suis parti, j'avais 21 ans. J'ai 21 ans, mais c'est mes quartiers. D'abord, j'ai une expression, moi je dis je suis un petit des quartiers, un petit de... Alors les gens me disent mais tu as grandi dans la rue. Je dis non, pas du tout. J'ai dit mais c'est une expression. Dans ma bouche, c'est pas du tout péjoratif. Je ne me dévalorise surtout pas. Petit enfant des quartiers, pour moi, c'est une fierté pour moi. Même si maintenant je vis ailleurs, je l'avoue. Mais petit des quartiers, moi, c'est important pour moi.
Ceux qui sont de la ville adaptée, veuillez bien le manifester normalement. Abstention, il n'y en a pas. Vote contre, il n'y en a pas. Rapport adopté à l'unanimité, je vous remercie. Rapport suivant, Madame Martineau. Il va falloir créer du débat, hein, sinon, pour la première fois depuis 5 ans, je vais avoir le journal
de 20h, on va pas s'inquiéter. Dr. Flake, DJ Low Cut. It's great to see the people awake out there. Great to see the people rising. Revolution is worldwide. Whether analog or digital. Yo, it started off with a yes, yes, y'all. To the beach, y'all. A king born in the New York City streets, y'all. At least in my own mind, I saw that I shine. When people couldn't see my light, I saw.
C'était Place de la République, saison 2, épisode 7. Un reportage de Rémi Dibowski-Douatte, Pauline Mocor et Jeanne Robet, réalisé par Cécile Lafont. Merci au commissaire Thomas Boudot, commandant Thierry Poilvert, au capitaine Guy Loulot, à l'huissier qui a préféré rester anonyme, à Annie et Jean-Louis. Pour le CHU Damien, merci à Christian et à la mairie, à Patrick Andréani, au monsieur logistique du 6-8 et à Yves Morin, le maire de secteur. C'est Jeanne Delecroix, l'attaché de production du Pied sur Terre, et c'est Nino Lima, notre stagiaire. Where you go, take a look inside, that's where you grow.